Ben, on fait hop, 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 et puis voilà. Hein.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Actuelle et lui.
Je vais vous faire une chronique musicale.
Alors j'avais décidé par légèreté d'esprit de vous parler de mes petits plaisirs solitaires.
Je vais vous parler de télé.
Comment se soigner par les plantes.
Je parlerai de la gaudriole.
Quels sont les accessoires incontournables qui vous mettront en valeur. Mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques petits conseils pour être au top. Alors à vos stylos.
Messieurs, n'hésitez pas à faire comme moi, à tester et à vous faire votre idée.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Caroline, bonjour Anne-Marie.
Et coucou.
Ho, ho, ho.
Ah bah voilà, c'est sur les photos vous me verrez en Père Noël, mais c'est Caroline qui fait
la Mère Noël.
Qui fait la Mère Noël. Donc ben voilà, on vous l'a dit en plus que cette émission était enregistrée, donc on l'a enregistrée en pensant à vous. On a une table de fête hein, devant nous, hein, un peu celle que vous aurez sans doute ce soir
ou demain.
Mmh. Voilà, donc bon, on va passer donc une bonne heure ensemble.
Nos estomacs aussi.
Voilà.
Dans l'ambiance de Noël. Donc,
dans l'ambiance de Noël, tout à fait. Anne-Marie, de quoi tu nous parleras au tout début de cette émission?
Eh bien, ce 24 décembre, je vous propose de chanter. Mais pas n'importe quelle chanson, évidemment des chansons de
Noël.
On continuera avec toi, Guillaume.
Et oui, et ben moi, je vous parlerai justement de ce qui fait le repas à l'occasion de ces fêtes de fin d'année. Et on fera un petit tour, un petit tour d'Europe de ce qu'on mange justement pour les fêtes de fin d'année. Et toi, Caro ?
Et ben moi, je vais vous emmener voyager puisqu'on fera le tour des traditions européennes, mais mondiales aussi de ces fêtes de fin d'année, Noël et Jour de l'An.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Je vous propose donc, dans cette première partie d'Actuel et lui, une chronique musicale durant laquelle nous allons entendre les plus beaux chants de Noël, du moins ceux que nous écoutons avec plaisir durant le mois de décembre.
Il y en a qu'on écoute avec des plaisirs
Non, mais je dis ça parce qu'il y en a qu'on écoute peut-être pas forcément, on n'écoute pas tous les chants de Noël, mais j'ai sélectionné pour vous ceux qu'on écoute le plus.
Et, c'est le best-of d'Anne-Marie.
Exactement. Et cela ne date pas d'hier, car d'après la tradition catholique, les premiers chants de Noël furent chantés par les anges au-dessus de la crèche pour fêter la naissance de l'enfant Jésus. Historiquement, les premiers chants de Noël étaient des chants joyeux, évoquant la nativité, parfois même des chants rythmés ou des danses. Dès le Moyen-Âge, on joue des mystères de la nativité. C'est une forme de théâtre populaire où sont mis en scène les chapitres du Nouveau Testament, relatifs évidemment à la naissance de Jésus. Ces scénettes sont accompagnées de chants spécifiques, les chants de Noël. Ces scénettes évolueront vers une forme appelée pastorale qui se concentre sur l'annonce faite aux bergers. Très en vogue à la cour du roi de France au XVIIIe siècle, les pastorales sont encore populaires dans certaines régions, notamment en Provence. Dans de nombreuses paroisses catholiques, le soir de Noël ou quelques jours avant, les enfants jouent des passages de la nativité accompagnés par des chants de Noël. C'est par ces traditions donc que sont parvenus les nombreux chants mettant en scène l'annonce faite par les anges aux bergers. Et alors ma question, alors Guillaume connaît la réponse, donc je vais quand même la poser en priorité à Caroline. Caroline, sais-tu quel est le plus ancien chant de Noël français chanté encore aujourd'hui ?
Bon, je veux dire, il est né le Divin Enfant ?
Eh bien non.
Ah, zut !
Et perdu. Alors Guillaume, tu connais la réponse ?
Je dois pas rendre ma tranche de foie gras quand même.
C'est entre le bœuf et l'âne gris. Ah.
Exactement, c'est entre le bœuf et l'âne gris.
Et oui,
c'est le cantique le plus ancien, il remonte au XVIe siècle. Les paroles de cette chanson font référence à la crèche où est né Jésus et où figurent traditionnellement, un âne et un bœuf. Selon les récits populaires, la laine des deux animaux aurait réchauffé le nouveau-né.
La laine ou la laine ?
La laine. Mais pas, sachant
en un seul mot.
Voilà, sachant que le bœuf, je ne crois pas qu'il ait de laine sur le dos.
Il a une sorte de...
Voilà, donc je vous propose d'écouter en entier la chanson Entre le bœuf et l'âne gris.
Entre le bœuf et l'âne gris, Dors, dors, dors le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dors, dors, dors le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu. Pastour joli, dors, dors, dors le petit-fils. Mille anges divins, mille séraphins volent alentour de ce grand Dieu.
Voilà, et je vous propose...
Ben, on y est là, hein, c'est bon. Hein.
Ça y est.
Elle est toute mignonne, cette chanson. Ouais. Quand même. Elle est très jolie. Je vous propose désormais une autre chanson populaire, connue de tous, à savoir Petit Papa Noël.
Version Tino Rossi.
Eh oui, j'ai demandé, la préparation de l'émission, j'ai demandé...
Ah ben, c'est, enfin, si c'est pas Tino Rossi, c'est pas...
J'avais proposé,
c'est pas la bonne, hein.
J'avais proposé Michel Thor, mais...
Oh non, ben non, non, c'est beaucoup mieux Tino Rossi, quand même.
Exactement.
Ludo, si tu nous écoutes, spéciale dédicace, cette émission complète.
Non, mais j'en suis sûre qu'il écoute aussi Petit Papa Noël de Tino Rossi.
Bah, bien évidemment, surtout avec son petit bout maintenant.
Voilà.
Il ne nous fera pas croire le contraire.
Donc, c'est une chanson populaire dans laquelle un enfant s'adresse au Père Noël le soir du réveillon de Noël avant de s'endormir. La chanson, avec le même titre, la même musique, mais avec des paroles différentes, a été créée par Xavier Lemercier pour une opérette à l'Odéon de Marseille en 1944. Les paroles étaient la prière d'un fils demandant au Père Noël le retour de son père prisonnier de guerre en Allemagne, puisque je vous rappelle que c'était donc en 1944. L'auteur Raymond Vincy a réécrit les paroles, effaçant toute allusion à la guerre, à la demande du compositeur Henri Martinet, devenu à la Libération le pianiste de... Tino Rossi. La nouvelle version est interprétée pour la première fois en 1946, donc par Tino Rossi, qui reste encore aujourd'hui son emblématique interprète. Mais on peut s'en souvenir ou pas d'ailleurs, il y a eu plusieurs versions du Petit Papa Noël interprétées par Dorothée, par Henri Dès, Dalida, Mireille Mathieu, très cher... à Guillaume, Michel Thor, que j'aime beaucoup aussi, Céline Dion, Rock Voisine, je ne sais pas si vous vous en souvenez de celle-ci, ou encore donc, la reprise faite par les chœurs de l'Armée Rouge. Je vous propose donc d'écouter un extrait.
L'original.
Ah oh bah oui.
Voilà,
bah
du Petit Papa Noël. Enfin, l'original, disons.
Oui, repris par le pianiste, transmis.
La
voilà.
Plus connue, en tout cas, c'est sûr.
Voilà.
Allez, c'est parti, Tino Rossi.
C'est la belle nuit de Noël. La neige étend son manteau blanc, et les yeux levés vers le ciel à genoux, les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi.
Et on continue avec une petite devinette. Si je vous dis qu'il est beau, que j'aime sa verdure et qu'il est le roi des forêts, vous devinez de quoi je parle.
Bien sûr. De mon beau sapin.
Exactement. Alors, mon beau sapin est un chant de Noël d'origine allemande. La version la plus célèbre est basée sur une musique traditionnelle et un texte de 1824 composé.
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum.
Ah bah en plus, si Caroline chante, franchement.
Il va neiger pour Noël.
Bah, ça serait bien, ça serait très bonne nouvelle, Caroline.
Ouais, parce que là, il fait chaud aujourd'hui. Ouais.
Depuis 1939, elle est aussi l'hymne officiel de l'État du Maryland aux États-Unis.
C'est original.
Ça. Ouais, c'est rigolo,
oui,
ça.
C'est
oui.
Très rigolo. Et au cours du Troisième Reich. Donc, la chanson « Oh, Tannenbaum » a été promue par les nazis dans le cadre de leur programme pour supprimer les parties les plus chrétiennes de la période des fêtes. Mmh. Voilà. Et donc, je vous propose d'écouter également un extrait de « Mon beau sapin ».
Ah ben voilà, on était en train de manger du foie gras, donc...
Bon appétit.
Voilà.
D'un peu, on vous oubliait.
C'est ça.
Tante et Clochette, ça vous dit quelque chose?
Ah, le traîneau du Père Noël. Le traîneau, digue, 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 du Père Noël.
Non, pas du tout.
Vous la connaissez pas, celle-là?
Non, moi, je pensais au truc qui tintinabule et autres...
Ah oui, c'est
peut-être
petit garçon, alors.
Jingle Bells?
Tout simplement.
Je vous ai perdu,
non,
peut-être.
Ouais, là, complètement.
Bah non, mais pour une fois, elle ne nous donne pas le texte.
Le
donc...
soleil d'automne de Vouvray commence à faire son effet, je pense.
Donc, c'est une chanson américaine de 1857. C'est l'un des chants de Noël les plus connus dans le monde, interprété notamment par Elvis Presley et Jerry Lee Lewis. Ah, ça change de Mireille Mathieu et Dorothée.
Ah bah, ça, c'est autre chose quand même, hein.
La chanson a été adaptée en français par l'acteur Francis Blanche en 1948 sous le titre de « Vive le vent », interprétée entre autres par Dalida et toujours Mireille Mathieu. Voilà. Et d'ailleurs Mireille Mathieu qui a sorti en ce mois de décembre un album de reprise des chants de Noël.
Un vrai fonds de commerce, ça s'appelle.
Voilà, exactement. Oui, bah, généralement, chaque année, c'est un artiste. Ça, c'est une tradition française quand
même. Je rappelle que l'année dernière, c'était celui qui en avait deux beaux.
Ah, des yeux.
Oui, des yeux.
Garou.
Et avec Garou et son petit garçon.
Et c'est ça.
Et je vous propose d'écouter un extrait de Vive le vent.
Sur le long chemin, tout blanc de neige blanche, un vieux monsieur s'avance avec sa canne dans la main, et tout là-haut le vent qui siffle dans les branches lui souffle la romance qu'il chantait tout petit enfant. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver qui s'en va sifflant, soufflant dans les grands sapins verts.
Alors, en ce 24 décembre, Caroline, Guillaume, qu'est-ce que vous allez faire ?
Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas, moi, je...
C'est pas question pour un champion, hein.
Je vais accueillir mes frères et sœurs qui arrivent. Voilà, on va sans doute aller à la veillée de Noël en famille.
Très bien. Caroline ?
Très tradition, hein, chez Guillaume. Moi, je serai en famille aussi. Je suis dans ma belle famille le soir de Noël.
Très bien.
Enfin, le soir du 24. Voilà. Et toi, Anne-Marie ?
Eh bien, je ferai comme Guillaume, je vais aller aussi à la messe de Noël, qui est tôt chez moi,
oui,
à 18h30.
Oui, mais c'est pareil, c'est pareil.
Oui, alors ça, c'est quand même de plus en plus.
Oui, alors je rappelle qu'à main, ça sera...
Le repas prenant le pas quand même sur la tradition religieuse, me semble-t-il. Enfin bon, je fais des commentaires, je n'y vais carrément pas.
Oui, et puis
mais bon.
C'est bien aussi pour les enfants.
Oui, pour les enfants, oui, c'est sûr.
Sachant qu'à main, par contre, c'est à 21h. Ouais. Voilà, petit rappel.
Alors 21h, c'est vraiment pas pratique, quoi. C'est vraiment au milieu de la dinde et des... Enfin,
c'est ça. Et bah disons que tu as le temps de digérer et
ça,
ensuite
je dis rien, mais
non
bon,
mais tu vois, tu prends ton entrée, ton plat de résistance, tu digères, tu vas à la messe et hop, tu finis après par le dessert.
Ouais, mais alors je te dis pas si t'as un peu bu du soleil d'automne de Vouvray sur ton plat de résistance et tout, je te dis
pas
dans quel état tu vas à la messe.
Une très belle voix. Bon, en tout cas, en ce 24 décembre, certains iront à la messe, hein, comme Guillaume et moi. D'autres resteront peut-être devant leur télévision. Bon, je n'ai peut-être pas l'impression que ce sera ton cas,
non.
Caroline. Mais pour ceux qui veulent regarder la télévision, je rappelle effectivement...
Ils peuvent régoûter.
Notre précédente émission où Guillaume nous avait fait un programme exhaustif pour ses fêtes de Noël.
Et pour Noël, ils n'étaient pas foulés, hein, je vous rappelle. Hein.
Oui, mais on avait d'ailleurs fait la remarque qu'on était en famille et qu'on regardait quand même peu la télé ce soir-là.
Voilà, je crois que sur la une, c'est les 12 coups de Noël et sur la deux, le grand bêtisier de...
Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des personnes qui ne seront peut-être pas en famille,
voilà,
qui
tout à fait, tout
seules.
À fait.
Et donc on...
et comme tu le disais, le grand bêtisier est un moment entre deux plats là, qui permet des fois de souffler, de digérer un peu. Et de...
Donc on pense à toutes ces personnes.
Tout à fait.
Mais en tout cas, je parie une chose, c'est que on chantera sûrement tous « Douce nuit, sainte nuit ».
Allez.
C'est un célèbre chant de Noël autrichien, écrit par un prêtre.
C'est le night.
Il a été chanté pour la première fois le 24 décembre 1818 en Autriche. Donc vous allez voir, ça date pas d'hier. Aujourd'hui, il en existe plus d'une centaine de traductions, à savoir en breton, en espagnol, en italien, en anglais. Et je vous propose donc d'écouter l'extrait de « Douce nuit, sainte nuit ».
Yeah.
Marie, t'es en pleine activité foie gras, mais...
Oui, oui, non, mais j'ai la bouche vide.
Tout va bien.
Il me reste à vous souhaiter, évidemment, de passer d'agréables fêtes de Noël. Et je vous propose d'écouter, pour finir ma chronique, Los Peces en el Rio.
Oula,
c'est une chanson...
Ah oui, attention. Hein, ça.
C'est une chanson en espagnol qui raconte, en fait, que les poissons boivent l'eau du fleuve pour voir naître le dieu nouveau-né. Voilà.
D'accord. Joyeux Noël. Ces Espagnols, quand même.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui. Alors Guillaume, on va continuer autour de cette table de Noël donc.
Eh oui, on va parler de la table de Noël. Alors avant de faire un petit tour d'Europe, de tout ce qu'on peut manger à l'occasion des fêtes.
Commençons chez nous.
Voilà, on va commencer chez nous et se dire qu'effectivement en France, traditionnellement, c'est l'occasion de se réunir en famille autour d'un repas copieux. Le foie gras, on en a parlé. Alors les huîtres, je n'en ai pas apporté parce que je n'aime pas ça. Les escargots non plus, hein, je suis désolé. Donc il n'y en a pas sur la table. Mais bon, voilà, le saumon fumé. C'est effectivement un certain nombre d'ingrédients du repas habituel de Noël. La dinde au marron est le plat traditionnel français du réveillon de Noël, on y reviendra tout à l'heure. Quant au dessert, les Français ont adopté la bûche de Noël. Voilà. On peut noter aussi, mais tu nous en parleras peut-être Caroline, du rituel aussi en Provence,
oui,
avec les 13 desserts, voilà, on en reparlera. Et puis en pâtisserie aussi, des influences qui rejoignent un petit peu les pays... les pays d'Europe centrale ou de l'Est. Alors, si on parle fruits de mer, vous allez me dire, je vais vous poser la question, est-ce qu'on peut manger des fruits de mer pendant toute l'année ?
Non.
Eh bien voilà, parce qu'il y a la fameuse...
Enfin, ça dépend des fruits de mer.
Il y a la fameuse histoire des mois en R.
Oui, mais ça, c'est pour les huîtres.
Voilà, notamment pour les huîtres. Alors, la coutume, effectivement, réserve la consommation des coquillages en général et des huîtres en particulier, au seul mois en R, c'est-à-dire de septembre à avril. Et en fait, d'où ça vient ? Ça vient simplement d'une tradition d'un édit royal de 1759, promulgué à la suite de nombreuses intoxications mortelles à la cour, interdisant donc la pêche, le colportage et la vente des huîtres du 1er avril au 31 octobre.
Bah, c'est vrai qu'avec les moyens de conservation de l'époque, ça devait être quelque chose.
Voilà, c'est ça, une époque effectivement où la conservation par le froid n'existait pas et où les transports étaient lents. Voilà, et donc cet édit évitait également
ça coupe là.
Ah, la crevette qui arrivait de la baie de Bretagne à la cour du roi à Versailles, ça devait être quelque chose.
Encore la crevette, tu l'as fait cuire, alors que l'huître, tu vois, quand tu la manges crue, qu'elle a passé 3 jours dans une carriole, si après t'es vert, faut pas se demander pourquoi. Hein.
Donc cet édit évitait également les prélèvements sur les bancs d'huîtres mères pendant la période de reproduction et préservait la ressource. On peut donc, on peut malgré tout de nos jours consommer des huîtres toute l'année. Mais pendant les mois chauds, elles sont grasses ou dites laiteuses du fait de la présence des gamètes. Mais voilà, mais c'est possible maintenant d'en manger toute l'année.
Des gamètes, que ce n'est les gamètes.
et oui, ben c'est la reproduction des huîtres, mais je ne vous ferai pas un cours de reproduction des huîtres.
Oh, dommage.
Alors après, il y a l'escargot de Bourgogne.
Ah, ça j'aime bien.
Voilà, alors.
J'aime bien, mais après, tu as mauvaise haleine.
Mais est-ce que l'escargot
de Bourgogne... Ça dépend comment tu le prépares.
Est-ce que l'escargot de Bourgogne vient bien de Bourgogne ?
Ça vient pas de l'escargot, la mauvaise haleine.
Non, ça c'est avec la sauce bourguignonne. Oui. Enfin, c'est ça, c'est quand tu mets le beurre avec l'ail.
C'est le beurre aillé.
Oui, parce que je suis pas sûre que l'escargot ait un goût en particulier. C'est sûr.
Donc, l'Elix pomatia, de ses noms vernaculaires français, escargot de Bourgogne, gros blanc ou escargot de Champagne, est une espèce d'escargot de la famille des Elicidae et du genre Elix. Il est le plus consommé en France, préparé donc en coquille et au beurre persillé, rare et protégé en France, et d'élevage économiquement non rentable, il provient essentiellement du ramassage naturel des pays de l'Est.
Oui.
Voilà, donc l'escargot de Bourgogne, pas vraiment de Bourgogne, quoi.
Alors, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, il y a une productrice d'escargots en Lozère qui habite Fontan, qui a son élevage à Fontan. C'est l'élevage Terra Delis. Et je peux vous dire que ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut acheter dans la grande distribution.
Ben voilà, petite adresse locale.
Voilà, alors Gladys ne sera pas cette année sur le marché de Noël de Mende. Elle sera sur celui de Saint-Chély-d'Apcher. Donc, pour les chanceux du Nord, précipitez-vous. Ça n'a rien à voir et c'est vraiment excellent.
Alors après, il y a le foie gras. Le foie gras, d'où ça vient ? De quand ça vient ? Alors bon, on le sait, le foie gras, c'est une spécialité.
Ah ça y est, elle vient de se gaver, elle tord du nez quand on dit ça. Donc, le foie gras, je parle d'Anne-Marie, pas du foie gras, bien sûr.
Ah, j'adore ça.
Oui, mais t'as tordu du nid, quand même.
Le foie gras, donc...
Non, parce que je sais qu'il y a de la souffrance derrière, mais Guillaume va nous en parler.
Le foie gras est une spécialité culinaire à base de foie frais, issu de l'élevage et de l'engraissement par gavage des oies et des canards. Le foie gras se consomme cru, mi-cuit ou cuit. Et peut être proposé sous forme de produits frais ou en conserve. Alors, il y a différentes gammes suivant que le foie a été retravaillé ou pas. Mais il peut être aussi consommé seul ou en accompagnement d'autres plats, notamment avec la viande. Selon la loi française, le foie gras fait partie du patrimoine culturel et gastronomique protégé en France. Et on entend donc par foie gras le foie de canard ou d'oie spécialement engraissé par le gavage. Alors, si la technique de gavage date du 25e siècle avant Jésus-Christ, quand les Égyptiens de l'Antiquité ont commencé à gaver les oiseaux pour les engraisser, la consommation de foie gras proprement dite a été signalée pour la première fois dans la Rome antique. Et aujourd'hui, la France est de loin le plus grand pays producteur et consommateur de foie gras. Mais c'est vrai qu'il faut noter que ce gavage n'est pas forcément le mieux pour le bien-être animal des canards et des oies, mais voilà. C'est aussi cette conciliation à faire entre les deux. Et puis, donc après, nous avons aussi la dinde. Alors, la première dinde servie lors d'un repas en France...
Je voudrais rassurer tout le monde, il n'y en a pas dans ce studio.
Non. Enfin, bon, Anne-Marie, on se demande, mais... Mais non, c'est une...
Alors, c'est Noël, Guillaume, c'est pas mon anniversaire,
Ni ta fête.
Oh, c'était...
Mon petit poulet.
Ben oui, c'est ça.
Son petit chapeau, non. Allez, ça y est.
C'est pas mal.
Je vais pas savoir.
C'est pas mal celle-ci.
Oui, c'est... elle est bien sortie.
1-1, c'est bon. Voilà, égalité, tout va bien.
Je t'ai vengé. Qui aime bien, châtie bien, Guillaume. Je le prends bien.
Mais oui. La première dinde, donc servie lors d'un repas en France, aurait eu lieu lors du banquet de noces de Charles IX en 1570. Et la première dinde à être mangée au cours d'un repas de Noël aurait été à la table du souverain du Saint-Empire, l'empereur Charles VII, donc en 1697, enfin qui a régné de 1697 à 1745.
Tout ça est très ancien finalement.
Et oui, hein. Oui, voilà, c'est ça qui, c'était pour ça que je me suis dit que c'était intéressant de vous retrouver ces origines de la dinde. Et donc la dinde au marron est une dinde farcie, rôtie, accompagnée de châtaignes cuites à la vapeur, bon, qu'on appelle marron dans le langage populaire, voilà. Et la farce est faite de poitrine fumée ou de chair à saucisse, assaisonnée d'échalotes, de clous de girofle, d'ail et d'oignon. Voilà. Alors après, bah évidemment, il y a la bûche, mais je crois que tu vas nous en reparler un petit peu, Caro.
Très rapidement.
Alors, l'idée, c'était que depuis plusieurs siècles, l'habitude lors de la veillée de Noël était de faire brûler dans l'âtre une très grosse bûche, ouais, qui devait se consommer très lentement. Et l'idéal était qu'elle puisse durer pendant les 12 jours du cycle jusqu'au Nouvel An, ou au moins pendant 3 jours. Mais bon, la disparition des grands âtres met fin donc à la coutume des bûches qui étaient brûlées. Et la date de naissance de ce dessert qui les a remplacés reste un peu inconnue. Certains évoquent la création d'un pâtissier en 1945, mais le gâteau roulé de Noël est déjà traditionnel, tout du moins dans la région Poitou-Charentes, depuis le 19e siècle. Et donc la bûche de Noël, à la base, était un biscuit génois sur lequel était étalée de la crème au beurre, parfumée au café, au chocolat, au Grand Marnier, etc., qu'on roulait ensuite pour lui donner la forme d'une bûche, qu'on recouvrait ensuite d'une fine couche de crème au beurre avec une poche munie d'une douille chemin de fer. Voilà.
Oh, et bah dis donc, quelle aventure.
Et maintenant, plein de choses, des bûches fantaisie, roulées, garnies, enfin bon, tout ce qu'on veut.
À des goûts plus qu'insolites.
Glacées,
hein,
voilà. Et puis, alors, évidemment, il n'y a pas de bûche sans les attributs de la bûche, c'est-à-dire le Père Noël, la hache, la scie, les champignons, les lutins qui sont posés, évidemment, sur la bûche.
Et qui régale parfois plus les enfants que
oui,
la bûche elle-même.
Tout à fait.
Oui, et puis il faut dire surtout que quand on arrive au dessert, généralement, on n'a plus faim. Et donc oui, là, c'est vraiment que pour la gourmandise. Hein,
c'est pourquoi, parfois, la bûche glacée a quand même du succès.
Et oui, et oui.
Ça fait du bien.
Alors,
c'est un trou normand pour...
Ah, c'est ça, c'est une espèce de trou normand.
Alors, si on fait un petit tour de... Vous voulez faire un petit tour de...
Un petit tour d'Europe, allez. Oui, Guillaume, un petit tour d'Europe.
Quel pays vous avez envie?
Espagne.
Alors, Espagne. Ben... Avant Noël, les maisons s'emplissent de gourmandises, toujours prêtes pour régaler les visiteurs. Mantecados, polvorones, roscos, des biscuits au vin, sont offerts aux amis invités à boire un verre de Malaga ou autre douceur. La Nochebuena, la bonne nuit du 24 décembre au soir, est un dîner de fête familiale. Les traditions culinaires varient d'une province à l'autre, mais le menu de ce repas est presque toujours le même. De l'agneau rôti, de la dinde et des fruits de mer. Le repas se termine en général avant minuit, car il est d'usage d'aller assister en famille à la messe de minuit.
Ah, surtout les Espagnols qui sont...
Oui. Et voilà. Et donc les confiseries de Noël sont incontournables en Espagne, comme le Turrón. Et du 22 décembre au 6 janvier, il y a dans toutes les maisons un plateau rempli de ces confiseries proposées à chaque visiteur.
Et alors, je n'en parlerai pas tout à l'heure, parce que je vais plutôt parler de l'Espagne pour le jour de l'an, mais c'est quasiment le seul pays d'Europe qui n'a pas complètement adopté la tradition du Père Noël.
Non. Non, les Espagnols, ils sont très rois mages.
Tout à fait.
Mais pas du tout Père Noël.
C'est, voilà.
D'ailleurs, ils s'offrent très peu de cadeaux, je crois, le 25
oui,
décembre.
Oui, c'est beaucoup plus tard. On y viendra tout à l'heure, ouais.
Alors, est-ce que...
Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en Suède, Guillaume. Qu'est-ce qu'on mange en Suède? C'est rien que pour t'entendre parler du... que je ne nommerai pas, mais que tu vas essayer de dire, toi.
Je savais bien que la Suède, ça allait être compliqué. Donc, le repas traditionnel de Noël en Suède commence par les smorgasbord, des entrées de harengs marinés, de pâtés de foie, de saucisses fumées, de saucisses de porc en gelée, des boulettes et du gratin d'anchois appelé la tentation de Janson.
Le porc est très à la mode à Noël. Hein.
Oui, c'est vraiment très très présent dans toute l'Europe de l'Est et l'Europe du Nord. Le porc est vraiment un...
Oui, enfin le porc c'est aussi une viande qui est pas très chère non plus. Enfin...
Oui, mais c'est donc... ça qui est un peu paradoxal d'une certaine façon.
Oui, et puis qui est grasse, et comme on sort d'un avant qui est censé être un peu maigre et un peu jeune.
Ça dépend pour qui.
Voilà, alors après, il faut quand même noter aussi, quand même, en Suède, le lutfisk comprenait le poisson à la lessive. Il s'agit en fait d'un colin séché, trempé à la lessive de soude pour l'attendrir. Et en dessert, on sert une bouillie de riz, sorte de riz au lait à la cannelle, dessert commun à toute la Scandinavie. Okay. Un autre pays ?
Allez, Italie.
Italie. Pas de Noël en Italie sans le traditionnel panettone. Il en existe une multitude de variétés. Ils peuvent être dégustés de plusieurs façons, fourrés à la crème, nappés de différentes sauces, recouverts de chocolat, etc. Et les Italiens dégustent aussi le pandoro, dont la popularité suit de près celle du panettone. Il est d'origine plus récente, originaire de Vérone. Il a été fabriqué pour la première fois il y a une centaine d'années. Et parmi les autres desserts, il existe également le panforte ou pain fort, une petite friandise traditionnelle originaire de Sienne en Toscane.
Et alors, je vais vous donner un petit truc de consommateur, c'est que le panettone, même industriel, est fabriqué en grande quantité avant Noël. Donc dans la période de fabrication, c'est un peu l'automne. Si vous en trouvez en plein mois de juillet, il date de l'automne précédent. Hein. Sachez-le, les Italiens. Moi, j'ai des copains italiens qui m'avaient prévenu parce que j'adore ça. Il est très bon à la période de Noël parce qu'il est quasiment frais, alors que quand on l'achète le reste de l'année, il date de cette période-là. Alors, je ne vous dis pas les conservateurs qu'il y a dedans.
Tu m'étonnes.
Allez, un autre petit pays.
Allemagne.
Allez, Allemagne.
Alors, il faut quand même préciser là, puisqu'on va évoquer l'Allemagne, que c'est l'endroit où a été inventée cette tradition de Noël.
Oui, et le réveillon de Noël en Allemagne est très festif et surtout très gourmand. C'est de là que vient aussi le surnom de réveillon du ventre plein. Et donc là, effectivement, le porc est vraiment le plat principal de ce repas familial. Tradition en souvenir du sanglier, jadis sacrifié au dieu germain de la guerre, Wotan. Wotan, je ne sais pas comment on dit, je n'ai pas fait d'allemand, moi. De nombreux gâteaux et pains sucrés sont confectionnés en forme de cochon pour Noël. Aujourd'hui, plus que la dinde, c'est l'oie farcie ou rôti qui est cuisinée, accompagnée de fruits et de légumes épicés et précédée de charcuterie et d'autres saucissons grillés. Voilà, une des coutumes culinaires allemandes pour Noël consiste à préparer la maison d'une sorcière composée de gâteaux et de friandises ressemblant à celle du comte d'Anderson, Hansel et Gretel. Voilà. Et donc tout au long du mois de décembre, les Allemands sont au fourneau pour réaliser de délicieux petits sablés en forme d'étoiles, de sapins ou de Père Noël qui exhalent les parfums de cannelle, d'anis, de cardamone, de clous de girofle ou de vanille, et les enfants qui aident les parents à la préparation.
Ils ont un talent fou pour faire ça.
À l'aide de formes et les décors avec du sucre glace, en passant une couche de chocolat fondu dessus. Et on fait ça dans la famille aussi.
Oui, et nous aussi, du coup. C'est mais très, parce très que bon. Nous, on a des copains allemands et que du coup, on leur a piqué leur tradition. On fait un Weihnachtskuchen aussi.
Mais nous, c'est venu par des voisins qui étaient alsaciens et qui, voilà, tout ça.
Alors, normalement, ces petits gâteaux de Noël se font le 4 décembre à la Sainte-Barbe.
Ah, c'est très précis.
Très précis.
Et puis voilà, donc le Christstollen est le gâteau traditionnel de Noël, l'équivalent de notre bûche. Voilà, originaire de Dresde, il a une forme de pain allongé à la consistance d'un cake. Il contient des fruits confits, des raisins secs, des épices, du rhum, de la pâte d'amande.
C'est celui-là que je fais, moi, pour Noël.
Le tout recouvert de sucre glace. Et la forme de ce gâteau, qui date du Moyen-Âge, représente le Christ enfant dans ses langes.
Un gâteau très maigre, hein, comme vous l'imaginez. Oui, quand vous en avez mangé une tranche, vous êtes bien calé pour la journée.
Et il faut ce qu'il faut. Un autre pays ?
Allez, la Hongrie.
La Hongrie. Alors, le plat central du dîner de Noël est le poisson. S'il est choisi vivant, les Hongrois prennent garde à la vivacité de ses mouvements dans l'eau, reflet de la progression de la famille dans l'année à venir. Sinon, ce sont ses écailles qui symbolisent la prospérité. Et le dessert est très souvent un begli au pavot et aux noix. Oui, alors le pavot est aussi très tendance dans l'Europe de l'Est en dessert. Allez, une petite dernière.
L'Angleterre.
Allez, l'Angleterre.
Parles de tout sauf du gâteau, hein, je vais y venir.
Eh bien, c'est bon. Alors, le repas...
Parce qu'il y a d'autres choses.
Oui, non, mais voilà. J'ai justement pas détaillé le fameux Christmas pudding, qui est effectivement le dessert typiquement anglais, mais tu pourras revenir sur toute cette tradition. Justement, comme je savais que tu allais parler tradition de Noël, je t'ai laissé toute la mécanique de ce gâteau qui est effectivement compliqué.
On va être hyper calé, là.
Ah oui. Alors, il faut quand même parler, si on parle du Royaume-Uni, de la roast turkey, donc la fameuse dinde rôtie. Voilà. Certains préfèrent l'oie ou le roast beef. Mais à Noël, les Britanniques dévorent aussi des petites tartelettes aux fruits, les mince pies. Et voilà. Et puis donc, effectivement, le Christmas pudding. Mais voilà, traditionnellement, on commence quand même la préparation de ce gâteau. On verra si c'est raccord avec ce que tu dis. Tout 5 semaines avant Noël, c'est ça ?
C'est ça.
Voilà. Allez, un dernier pour la route ?
Un dernier ?
Allez.
Un dernier.
Alors, un dernier. La Grèce, allez, partons au soleil un petit peu.
Allez, la Grèce. Donc, en Grèce, le repas réunit toute la famille pour fêter Noël autour de spécialités traditionnelles telles que la galopoula, une dinde farcie au marron et noix ou amandes, accompagnée de pommes de terre au four, de gourounopoulo, psito, merci Caroline, jeune porcelet, rôti, badigeonné d'huile d'olive et cuit au four, et les melamacarona pour le dessert, voilà. Les Grecs préparent.
Vive la Grèce.
C'est ça. Les Grecs préparent aussi des biscuits moelleux appelés les courabièdes pour les fêtes de fin d'année.
Ah, je suis déçue, il y a pas de S à la fin des mots. C'est comme Salakis et compagnie. Bon, bah, en tout cas, merci Guillaume pour ce tour d'Europe des traditions culinaires pour Noël.
Ça nous a donné bien envie.
Exactement. Ouais. Et tu nous proposes comme musique.
Je vous propose de partir en Espagne avec Feliz Navidad. Voilà, un petit souvenir de fête d'école l'année dernière avec mes neveux à Nantes. Donc voilà, avec un flash mob sur cette chanson. Je vais vous assurer que je ne ferai pas la chorégraphie.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.
Bien, Caroline, on va parler tradition de Noël. Et donc, tu nous disais pendant la pause que chez toi, la tradition, c'était la raclette.
Oui, dans ma belle famille, parce que c'est vrai qu'on est nombreux le 24 au soir et que ça avait été choisi pour faciliter un peu la vie de la cuisinière, qui du coup se consacre au repas plutôt du 25 et nous permet d'être tous ensemble dans la convivialité. Parce
voilà,
que
c'est hyper convivial.
Convivial
quand même.
Bon, après, c'est pas très léger avant le repas du 25, quoi. Mais bon, voilà, ça apprend à être raisonnable. On se fait avoir la première année, puis la deuxième, on est un peu plus prudent.
On se limite à 4 ou 5 tranches de fromage.
Ouais, voilà, quand on veut se resservir de pommes de terre, on hésite.
Bien, alors, côté tradition, qu'est-ce que tu nous as repéré dans...
Alors, bien évidemment, chaque pays sa tradition. J'ai voulu démarrer, alors c'est un peu loin de Noël, mais j'ai quand même voulu l'évoquer parce que, quelque part pour moi, ça donne quand même le top départ des festivités. Et puis avec la fameuse dinde, il y a quand même quelques similitudes. Je veux parler de Thanksgiving, la fête américaine, célébrée donc aux États-Unis le quatrième jeudi de novembre, l'équivalent de la fête de l'Action de Grâce au Canada. Historiquement, une fête qui se faisait dans les sociétés européennes et paysannes, et durant laquelle on remerciait Dieu par des prières et des réjouissances pour les bonheurs que l'on avait reçus dans l'année. Voilà. Alors, c'est désormais fêté donc aux États-Unis, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Les administrations sont fermées généralement ce jour-là. Et donc, le repas est principalement, traditionnellement, composé d'une énorme dinde. Je dis ça parce que on a tous vu des scènes mythiques de Thanksgiving dans le cinéma américain.
C'est ce que j'allais dire.
C'est un moment fort du cinéma américain avec
des
ces énormes dindes. Voilà.
Il n'y a pas une histoire aussi de grâce des dindes avec le président qui peut gracier des dindes?
Oui, tout à fait. Hein, exactement.
Ça, hein. Enfin, une.
Oui. Une, voilà. Et la veille de Thanksgiving, les associations distribuent des repas aux personnes sans domicile fixe dans toutes les grandes villes. Alors, je vous parlais cinéma, j'ai retenu quelques films parce que c'est quand même... Ça fait partie de cette comédie américaine que moi j'affectionne beaucoup. Donc je cite entre autres, mais il y en a 100 000, Un week-end en famille de Jodie Foster qui tourne autour de Thanksgiving, Un ticket pour deux de John Hughes, et, ou encore Anna et ses sœurs de Woody Allen, où là on s'enquille dans le film carrément trois repas de Thanksgiving. Et je ne voudrais pas finir sans parler du fameux « Mon beau-père et nous », avec le découpage de la dinde qui exacerbe la rivalité qui existe entre Greg Furniker, alias Ben Stiller, et son beau-père, Jack, Robert De Niro. C'est un moment assez fabuleux de la comédie américaine.
Oui, alors qu'est-ce qui arrive après la dinde américaine ?
Alors après la dinde américaine, comme on est le quatrième jeudi de novembre, on arrive très vite au 1er décembre et donc à la période de l'Avent, l'Avent Noël. Même si l'Avent ne s'écrit pas pareil.
Non.
Et très vite, on arrive à la Saint-Nicolas, les 5 et 6 décembre. C'est une fête plus ancienne que Noël et qui est encore fêtée très fort dans certains pays d'Europe. Alors je pense à la France, plutôt dans sa partie Est, à l'Allemagne, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas. La Russie par extension, la Pologne, l'Autriche. Et c'est une fête qui, dans ces pays, est parfois plus attendue encore que Noël. Alors le 5 décembre, le Saint-Nicolas, patron des enfants, les écoliers nommaient parmi eux un évêque. C'était l'évêque des enfants, qui était un petit peu le roi de la fête. Durant plusieurs siècles, d'ailleurs, pour montrer l'importance de cette fête, le marché de Noël de Strasbourg s'appelait le marché de Saint-Nicolas. Voilà. Dans les Flandres françaises, comme en Belgique, le Saint-Nicolas défile dans les rues le 6 décembre avec des géants. Saint-Nicolas est donc le saint patron des enfants, mais aussi des prisonniers, des avocats, des ergothérapeutes ou des célibataires. Très à l'honneur les célibataires dans cette période de Noël, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, il faut savoir que dans certaines régions, ce Saint-Nicolas est accompagné du père Fouettard, et pour oui. Les enfants passage.
Comme Anne-Marie.
Voilà, qui est vêtu de... Oh, la pauvre, elle est dinde et passage. Oh là là, c'est ta fête hein, quand même aujourd'hui.
Alors, profite tant qu'à faire. De...
En plus, elle a la bouche pleine, elle ne peut pas répondre.
Ah non, je peux, mais je n'ai rien à répondre.
Tu sais, la bave n'attend pas la blanche colombe.
Exactement, la bave du crapaud.
Alors, le père Fouettard est vêtu d'un grand manteau noir avec un grand capuchon, de grosses bottes, et il porte parfois un fouet et un sac. Bien sûr, il n'a pas le beau rôle. Et c'est un petit peu de chantage pour que les enfants soient sages jusqu'à Noël.
Bon, donc après avoir ouvert les 24 cases du calendrier...
D'ailleurs, vous en avez un, vous ?
Non.
Calendrier de l'Avent ?
Bah alors moi, il y en a deux à la maison, puisque j'ai deux enfants, donc oui. Voilà.
Et vous n'avez pas pris d'avance sur les dates, non ?
Non, cette année, c'est bien respecté.
D'accord. Donc,
Par contre, on a des matins de drame, parce que c'est pas toujours la petite friandise que l'on espère.
Et oui. Alors, donc on arrive à Noël, et donc qu'est-ce qui se passe
Alors, je vais revenir à ce que tu évoquais tout à l'heure, Guillaume, mais je vais vous faire un petit quiz. Est-ce que vous sauriez nommer les 13 desserts provençaux?
Alors, ils en ont fait pendant un des défis, là, du Téléthon. Qu'est-ce qu'ils fabriquaient?
Oui, tout à fait.
Avignon, là, je ne sais plus ce que c'était.
C'était la fougasse à l'huile, non?
Ah oui, là,
hein,
ouais,
il me semble.
C'est ça, ouais,
voilà,
ouais, c'est ça.
La pompe, ce qu'on appelle la pompe en Provence. Alors, il y a dans ces 13 desserts provençaux les 4 mendiants, les figues sèches, les amandes, les raisins secs et les noix. Alors, les 4 mendiants étant franciscains, carmélites, dominicains et augustins. C'est leur représentation. Il y a les dattes, symbole du Christ venu d'Orient, les nougats, noirs et blancs, pour le pénitent blanc et le pénitent noir. La fougasse à l'huile, donc, qu'on appelle la pompe, c'est une espèce de galette ronde aplatie à l'huile d'olive. La pâte de coing ou de fruits confits dans la région d'Apt ou de Carpentras. Les oreillettes, des petites gaufres légères et fines. Et les fruits frais, mandarines, oranges, poires, raisins, melons d'hiver, conservés pour cette occasion. Alors, les 13 desserts sont normalement consommés au retour de la messe, alors, à 19h chez Anne-Marie.
Oh bah, la messe, elle dure plus longtemps, elle dure bien 1h30.
À 20h, alors. Vous mangez les 13 desserts à l'apéro. Non, allez, je plaisante. Et ils doivent normalement, quand il y en a beaucoup, rester sur la table pendant les 3 jours qui suivent Noël, donc jusqu'au 27 décembre.
Alors, on part chez nos amis britanniques.
Eh bien oui, et donc pour parler de ce plum pudding dont que tu avais évoqué tout à l'heure, qui est donc caractéristique du repas de Noël anglais, un gâteau qui se prépare donc des semaines à l'avance, car d'après les Anglais, il se bonifie avec le temps. Le plum pudding est une recette extrêmement compliquée qui se compose de nombreux ingrédients, aussi variés que des zestes d'orange, des raisins de Corinthe, des cerises confites, de la graisse de rognon de bœuf haché, de la soupe de brandy. Chaque convive reçoit une part afin d'avoir la chance de découvrir un des 6 objets qui ont été cachés dans le gâteau. 2 bagues qui apportent l'amour, la pièce de 6 pence, symbole de prospérité, le bouton de culotte pour le vieux garçon, le dé pour la vieille fille et le petit cochon qui détermine celui qui est le plus gourmand.
C'est mignon. Et donc il y a des fèves en fait.
Et bien, on peut dire, il y a des fèves.
Il y a peut-être des collectionneurs du coup. Et chez nos voisins allemands?
Alors, Guillaume, on a longuement parlé, la tradition de Noël est très très forte en Allemagne. Le coup d'envoi est bien sûr donné avec les premiers jours de l'Avent. Ce jour-là couvre les marchés de Noël qui durent tout le mois de décembre. Et c'est à ce moment-là qu'on fabrique aussi en famille la couronne de l'Avent, confectionnée avec des branches d'épicéa et d'autres verdures célébrant la nature. Et on en trouve dans toutes les maisons. Elle porte normalement 4 bougies qui sont successivement allumées chaque dimanche de l'Avent et aussi 24 sachets de gourmandises qui seront dégustés chaque jour en famille. On en parlait il y a 2 minutes.
Ah oui, ça fait quand même de la bonne grosse couronne de l'Avent. Hein,
c'est ça.
Pour pouvoir caser les 24 friandises, les 4 bougies.
Alors, on déguste beaucoup durant ces marchés de Noël en plein air et un peu dans le froid le fameux vin chaud épicé. Et on flambe aussi, selon la tradition, un pain de sucre à ce moment-là. Alors, tu l'as évoqué tout à l'heure, la tradition de la bûche de Noël est attestée en Allemagne dès 1184. En Allemagne, la fête de Noël dure 2 jours. Le 26 décembre est donc un jour férié. Et c'est ce deuxième jour que l'on consacre à la visite des familles et des amis. Il faut savoir qu'en Europe, de nombreux pays ont ce 26 décembre férié.
Bon, alors chez les Belges, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Est-ce que les frites sont au menu?
Et non, les frites ne sont pas au menu. Par contre, le réveillon de Noël est une fête familiale, mais comprend aussi de nombreux temps forts en public. Certains vont à la messe, d'autres se regroupent à minuit dans la rue. C'est notamment le cas sur la plus grande place de Bruxelles, où, quel que soit le climat, des milliers de personnes assistent en famille à l'illumination des bougies à minuit précise.
C'est sympa comme tradition.
Ouais.
En Bulgarie, l'amour est au menu.
Voilà, je vais revenir à ces fameux célibataires cherchant chaussures à leurs pieds. Budni Vecher, c'est le réveillon de Noël en Bulgare. Sur le plancher de la salle à manger, on étale de la paille recouverte d'une nappe réservée au réveillon de Noël. Sont posés sur cette nappe 7, 9 ou 12 plats maigres. Pour purifier et prévenir du malheur, la personne la plus âgée passe avec des bâtonnets d'encens dans toutes les pièces de la maison. La fête de Noël commence aux 12 coups de minuit, c'est le Koleda. Les jeunes filles préparent un pain spécial, un kraoué ou kravage, pour leur Koledari favori. Alors les Koledari sont des hommes célibataires et la jeune fille, en lui offrant son kravage, exprime ainsi sa préférence pour l'un d'entre eux.
Eh bien,
hein, c'est chaud chez les Bulgares.
Allez, on n'en a pas parlé non plus tout à l'heure, les Estoniens.
Alors, autrefois, dans les campagnes, les paysans scrutaient les étoiles et interrogeaient la glace pour y lire l'avenir. Ils croyaient que cette nuit-là, les bons et les mauvais esprits se promenaient. Aussi fallait-il déposer de la nourriture sur la table et laisser le feu dans l'âtre jusqu'au lendemain. Il est de tradition de se rendre au sauna avant l'office de Noël. C'est le cas dans de nombreux pays du Nord qui ont cette tradition d'une espèce de prophétie de Noël.
Oui, mais je trouve ça vachement poétique, c'est même plus beau que tout ce qu'on a entendu. C'est
D'autant qu'on sait très bien que dans tous ces pays du Nord, c'est la période des aurores boréales et que les ciels sont magnifiques.
Oui, ça fait beaucoup plus rêver, je trouve.
Bon, on repart chez les Italiens.
Eh oui, nos amis italiens. Alors, durant la période de l'Avent, on offre à ses proches, je le dis parce que si ça peut vous donner des idées, moi je suis au bureau là toute l'après-midi, on offre à ses proches, ses collègues de travail et ses voisins des gourmandises et des gâteaux à l'effigie du Père Noël, Babbo Natal ou de l'enfant Jésus. Côté cadeau de Noël, les derniers servis sont à Rome et en Italie du Sud qui devront attendre jusqu'au 19 janvier, date sacrée où Befana, la vieille sorcière aux cheveux blancs, passera. Hein, c'est pas le Père Noël qui passe en Italie, c'est Befana. Voilà, vêtue de noir avec de vieilles chaussures toutes déchirées, elle se déplace sur son balai et distribue des friandises aux enfants sages et du charbon aux enfants passage.
Bien, mais maintenant on va partir...
Là où il fait chaud.
Oui, là où il fait beau.
Oui, là où il n'y a pas de neige et pas de sapin.
C'est ça. Là, si, il y a une belle chanson de Noël qu'on n'a pas passée. Mais...
Oui, qu'on aurait pu. Ouais. Alors, je vous emmène sur les îles, aux Antilles, où le tronc des palmiers s'enrubanne pour Noël de petites lumières blanches. La messe de minuit est de tradition dans ces pays, ou sur ces îles. Et au retour, le célèbre Tiponche est détrôné pour le fameux Schrub. À Saint-Barth, ce cocktail est composé de rhum blanc, de citron, de sirop de sucre parfumé aux saveurs des îles, cannelle, muscade, girofle et thé du charpentier. En Guadeloupe, ce sont des écorces d'agrumes qui donnent au rhum blanc leur parfum. Voilà, alors on savoure son rhum à petites gorgées et alors on apporte sur la table la grande soupière de soupe au pois d'Angole agrémentée de quelques morceaux de viande salée qui apporte un fumet incontestable. Puis viennent les plats de résistance qualifiés pur porc, on le retrouve, boudin, pâté, ragoût, jambon. Ce dernier sent bon le vieux rhum et le sucre de canne. Voilà. Et aux Antilles, le clou de la fête demeure le paun, un pain composé de patates douces, de giraumon, un potiron local, de sucre, de vanille, de raisin de cannelle, le tout enduit de bon beurre et doré au four.
Ça doit être bon ça.
Ouais. Et en Guadeloupe, la farandole des douceurs prévoit un blanc mangé au lait de coco.
Ça doit être bon aussi.
Oh, ça aussi, c'est bon. Ouais. Un 4 quarts, des chadecs confits, ces pamplemousses géants à l'écorce encore verte et des fruits de pays. Un vrai régal pour nous métropolitains, bien sûr.
C'est vrai. Bon, alors là-bas, il fait quand même beaucoup moins chaud.
Eh oui,
on va parler
il fait
de
faire
la
des allers-retours, non, mais j'ai trouvé ça sympa.
Il y a un choc thermique. Quand
j'ai
même,
essayé non. d'être chronologique, puisqu'en Russie, on fête Noël le 7 janvier. On est sur le calendrier orthodoxe. Hein. La veille, on va à la messe, puis on mange le traditionnel repas composé de doigts farcis aux pommes, de vodka et de chai. Puis on laisse une miche de pain sur la table pendant la nuit pour honorer la mémoire des défunts. Il faut savoir que dans beaucoup de pays, on va sur la tombe des défunts au moment de Noël pour honorer les anciens.
On ne fait pas du tout ici,
ouais,
c'est vrai,
tout à
parce
fait.
Que nous, c'est la Toussaint.
Et... Les enfants, quant à eux, reçoivent leur cadeau la nuit du 31 décembre au 1er janvier, apporté par le père Givre et Babouchka, cette fameuse sorcière de la toundra russe.
Bon, alors maintenant, on repart dans l'exotique.
Ah, moi, je trouve ça très, très exotique,
et
mais
on
si
part
c'est le pays
au,
qui veut
au,
ça.
Au pays du soleil levant.
Voilà, au Japon, on célèbre non pas Noël, mais le jour de l'an.
On mange des sushis ?
À cette occasion, un repas très raffiné, Anne-Marie, est organisé dans la maison du chef de famille. Alors, peut-être des soucis très, très raffinés. Les ingrédients soigneusement choisis sont généralement le homard, le vin de riz, le pain de poisson, les oranges, les châtaignes, les fleurs de chrysanthème et les fougères.
Bien, alors maintenant, nous voilà déjà presque arrivés au jour de l'an.
Bah oui, puisque donc le Japon fête Noël au jour de l'an.
Quelques autres traditions.
Alors, on revient proche de chez nous, hein, et je sais que tu l'aimes, cette tradition, Guillaume, donc j'ai souhaité l'évoquer. C'est en Espagne, hein, où les festivités du jour de l'an démarrent en famille, autour d'un copieux dîner à base de crevettes, d'agneaux, de dindes. Et plusieurs petites traditions viennent rythmer la soirée. Alors, la plus importante, la plus connue aussi, les célèbres 12 grains de raisin. À minuit, chaque Espagnol doit avoir préparé devant lui 12 grains de raisin qu'il devra avaler les uns après les autres au son des 12 coups de cloche qui annoncent la nouvelle année. On les appelle les empanadas. Alors, pas d'excuses et pas de soucis pour les Espagnols, puisque toutes les églises d'Espagne retentissent à minuit de ces 12 coups de minuit qu'on entend aussi à la radio et à la télévision.
Bon, alors maintenant, c'est pareil, on fait un grand saut.
Un grand saut, là, c'est normal, puisqu'on va au pays des kangourous, Guillaume.
Voilà. Alors, qu'est-ce que font les Australiens
pour
leur réveillon ?
Alors, vous savez, parce que c'est très, très souvent télévisé, les réveillons australiens sont très...
C'est souvent là que commence
la nouvelle année, pour la planète. Donc, on voit ça à la télé. Les réveillons australiens sont largement précédés par leur réputation. Sydney est la deuxième grande ville au monde à célébrer la nouvelle année après Auckland, en Nouvelle-Zélande. C'est l'une des plus grandes manifestations au monde. Elle attire chaque année 1,2 million de participants, dont 300 000 touristes étrangers. Il y a un site internet spécial dédié à ça. Je vous le signale parce qu'il reste encore quelques jours si vous souhaitez passer votre réveillon au pays des kangourous. Alors, dans la grande baie de Sydney, en plein été austral, les bateaux sont illuminés et font des cercles dans l'eau toute la nuit. Et sur le célèbre Harbour Bridge et tout le long du port de Sydney, 80 000 feux d'artifice sont installés. Ce sont les feux d'artifice les plus beaux du monde. Le réveillon de Sydney est donc à découvrir au moins une fois dans sa vie.
Bon, et maintenant chez nos cousins d'outre-Atlantique.
Eh oui, au Canada. Alors, je l'ai noté parce que c'est certainement la palme du Nouvel An le plus excentrique. Tout commence d'abord sur les côtes, au bord des lacs, partout, où une étendue d'eau naturelle s'offre aux Canadiens. En plein hiver, ils sont plusieurs milliers, peut-être quelques millions, chaque année, à s'élancer dans les eaux glacées, frôlant les 0 degré pour satisfaire à la trempette de l'ours polaire.
Vous savez, beaucoup de gens qui le font aussi sur nos côtes.
Oui,
françaises.
Mais l'eau est moins froide.
Là, c'est
0
degré.
Là, c'est quand même 0 degré. Il faut parfois casser la glace pour se tremper. Quoi.
Bah, on dit toujours que le froid, ça conserve. Mmh. Donc,
ça raffermit les chairs.
Voilà. Oui. Sur la côte est canadienne, les hommes ont pris l'habitude de se déguiser en femmes le soir du 31. Et bien évidemment, les femmes de leur côté revêtent des habits d'hommes. Ils sortent tous de chez eux et font du porte-à-porte afin de réclamer quelques verres à boire. Voilà. Dans ces régions...
Et finir la soirée dans un sale état quand même.
Alors, dans ces régions du pays, on sert le plus souvent une sorte de rhum venu de Terre Nouvelle et appelé le schkrich. Après le schkrum des Antilles, voilà le schkrich. Il est coutume de le boire en ayant préalable embrassé une morue. Je vous dis que c'est original au Canada, salé. Pour finir, dernière tradition canadienne, et c'est pas la moindre, qui effraiera sans doute quelques-uns. On l'appelle le cocktail à l'orteil et il ne se sert que dans le Downtown Hotel de Dawson City, dans le Yukon. Sa réputation dépasse largement le comté, même le pays. Comme son nom l'indique, ce cocktail servi dans un petit verre est agrémenté d'un gros orteil. La tradition vient d'histoires de piraterie ancienne. L'étiquette veut que le courageux buveur avale le contenu du verre de manière à ce que ses lèvres touchent l'orteil. Bonne année à vous tous.
C'est charmant. De toute façon, je pense qu'on est tellement bourrés qu'on s'en rend pas compte.
Ça doit être ça, je pense.
Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter ?
Alors, j'ai voulu sortir un peu de la tradition et vous faire un peu rigoler, parce que c'est quand même Noël est une fête et il faut bien s'amuser. J'ai choisi la fille du Père Noël, version Les Enfoirés.
Placé devant la cheminée, pas besoin de vous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet.
côté marrant du muet.
Bon, bon, l'âme crie un peu, hein, je suis désolée pour cette version, parce que les hommes sont fabuleux, mais...
Elle gâche tout, je trouve.
Ouais, dommage.
Ils auraient dû la virer.
J'ai oublié de mettre la virgule, on est fatigué.
C'est pas grave.
Toum, 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 48 FM sur 94.1, actuel, et lui.
Et on est le 24 décembre.
Voilà, mais on va vous souhaiter, parce que cette émission est terminée, hein, nous n'allons pas tenir toute la journée.
Pas la bûche, hein, par contre, il nous reste la bûche à déguster.
Ah oui, mais ça...
Oui, ça c'est en privé.
Voilà. Ah, c'est ça.
En tous les cas, on vous souhaite de passer de très très bonnes fêtes de fin d'année.
Profitez-en bien. Voilà,
profitez de votre famille, de vos amis.
De ces bons moments de partage, ça fait toujours du bien dans ce monde.
De brut.
Voilà.
Des bisous et à bientôt.
Voilà, et on se retrouve en 2016.
Hein, et on sera là, fidèle au rendez-vous. À bientôt.
Bisous,
bisous, bisous.
Bonne fête.
Actuel, elle et lui.
Actuel et lui.
Actuel et lui.